Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Céline Asselot.
Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition des Informés. C'était son grand oral tout à l'heure, 12 jours après sa prise de fonction. Jean Castex a détaillé devant les députés la feuille de route du gouvernement pour les 600 prochains jours, parlant de la confiance, de la France du bon sens, de la croissance écologique et puis des territoires aussi, beaucoup. On verra avec nos informés ce qu'il faut retenir de ce discours de politique générale validé par l'Assemblée nationale. Premier acte fondateur pour ce Premier ministre qui promet, je cite, de ressouder une France ébranlée par la crise. Alors avant de commencer à détailler les idées, les chiffres, les mesures, laissez-moi vous présenter les informés qui sont à mes côtés ce soir. Mariam Pierzadeh, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et chroniqueuse à France 24. À vos côtés, Michel Taube, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Fondateur du site d'information Opinion Internationale. Patrice Moyon est également avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, éditorialiste au sein du quotidien Ouest France. Et Arnaud Gonzague, bonsoir à vous. Vous êtes
bonsoir.
Responsable du service société de l'Obs. Bienvenue à tous les quatre, c'est parti pour une heure de débat. Alors ce n'est évidemment pas un hasard s'il a choisi d'en parsemer son discours, de le marteler même à plusieurs reprises. Le mot territoire était partout, tout à l'heure dans le discours de Jean Castex. Écoutez.
Nous devons, mesdames et messieurs, réarmer nos territoires. Nous devons investir dans nos territoires. Nous devons nous appuyer sur nos territoires. Pris par le haut, tous les sujets deviennent des objets de posture ou de division. Sur le papier, on n'en fait jamais assez. Mais traités en partant du bas, par les gens, donnant à nos concitoyens, et notamment aux plus jeunes d'entre eux, l'occasion concrète, visible, mesurable de s'impliquer, alors cela change tout.
Alors est-ce qu'on peut dire que Jean Castex, là, il rejoue en quelque sorte la France d'en haut face à la France d'en bas ? Marianne Pierzadeh, qu'est-ce que vous en avez retenu de ce territoire martelé tout au long du discours ?
Oui, c'est le retour des territoires. Alors Jean Castex, c'était le maire avant de devenir Premier ministre d'une ville de 6000 habitants. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais pour laquelle il a choisi Jean Castex pour incarner justement cette France des territoires. Oui, il a voulu ancrer sa politique pour dire on n'oublie personne. C'est aussi une réponse aussi... Peut-être, moi je l'ai senti comme ça en l'écoutant tout à l'heure, au mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on se souvient que le mouvement des Gilets jaunes était aussi, c'était l'une de leurs revendications d'être totalement oublié par rapport à Paris, que la France ne se jouait qu'à Paris. Donc c'est une manière, comme il dit, de ressouder la France et de marquer cette unité de la France qu'il veut retrouver. Mais on est très loin, la route va être très longue pour cette unité française.
Parce que là il dit presque l'inverse Jean Castex, il dit en gros tout ce qui vient de Paris, oui. Ça ne s'applique pas forcément.
Exactement.
Michel Taube.
C'est un petit peu pourquoi, et il y a d'autres raisons, je trouve qu'il joue un peu l'anti-Macron. C'est-à-dire que, effectivement, Emmanuel Macron a une image, alors il proteste contre cette mauvaise réputation qu'il a, mais d'être le président de la Startup Nation, des centres-villes, de la France qui réussit. Et c'est vrai que Jean Castex se pose en gaulliste social, avec un accent qu'il assume, et c'est très bien parce que la France, la diversité, c'est aussi les accents de nos...
On a beaucoup commenté son accent,
absolument,
en tout cas, Jean Castex.
C'est aussi l'accent de... Ce sont aussi les accents de nos terroirs, mais Jean Castex, effectivement, se dit ne pas être que un haut fonctionnaire, comme l'a été Emmanuel Macron, mais aussi un homme du terrain, un homme de territoire. Alors bon, la réalité est peut-être un peu plus complexe. Édouard Philippe l'a aussi été en tant que maire du Havre, d'une ville de nos territoires. Et est-ce que pour autant ça a matché avec le président de la République ? Ça va pas être ça. Mais c'est vrai que Jean Castex, je trouve qu'il est un peu apparu. J'exagère un peu en disant un anti-Macron, mais quand même un Macron des territoires. En tout cas, c'est ça qu'il va essayer de faire, parce que jusqu'à présent, Emmanuel Macron, il n'a pas réussi à se connecter au territoire. Il a tenté de le faire au lendemain de la crise des Gilets jaunes, comme vous l'avez dit, dans le grand débat national, mais ça n'a pas été suivi d'effet concrètement. Après, je doute que cela soit vraiment suivi d'effet dans les 600 jours, et même beaucoup moins, en fait, qui va rester à Jean Castex. Mais en tous les cas, l'intention est là.
C'est de l'affichage, là où on peut croire à une forme de sincérité, Patrice Moyon.
Je pense qu'il y a une forme de sincérité, mais de toute façon, effectivement, depuis le début du quinquennat, les territoires, c'est le talon d'Achille un peu d'Emmanuel Macron. Hein. Le torchon brûle entre les associations d'élus depuis au moins 2 ans, que ça soit l'association des maires de France, les régions qui se sont, et des départements, rassemblés derrière le drapeau au territoire uni. C'est François Baroin qui dit le statu quo n'est plus possible. Et puis on l'a vu quand même avec non seulement avec la crise des gilets jaunes, mais aussi avec la crise du coronavirus, c'est que il y avait un décalage effectivement. On a vu une plus grande réactivité des territoires, des régions, une capacité à répondre, alors qu'on a senti quand même l'administration française jacobine, un peu lourde, lente à réagir. Donc il y a effectivement, je pense, une vraie demande de proximité et d'efficacité.
Vous l'avez noté aussi,
oui, j'ai noté,
le mot
j'ai
territoire.
Noté, et surtout qu'effectivement, Jean Castex, il incarne la France girondine, quoi, le contraire de la France jacobine. C'est vrai que ça s'entend tout de suite quand il le dit, quand il le fait. C'est vrai que jusqu'ici, Macron, il a quand même raté son rendez-vous avec les territoires, quoi, parce que il avait mis en place une conférence des territoires dès 2017, qui a été presque immédiatement désertée par l'Association des maires de France.
Donc c'est un aveu d'échec, là, en fait, le choix de Jean Castex.
C'est peut-être un changement de braquet, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a du travail. En même temps, il a parlé d'un droit à la différenciation. Ça, pour le coup, c'est un gage donné au territoire, parce que ça veut dire concrètement que la Bretagne pourra faire différent de l'Alsace, qui pourra faire différent de la région lyonnaise, etc. Et ça, c'est pas une décentralisation, c'est pas une vraie réforme de décentralisation qui exigerait un changement institutionnel important, mais c'est quand même un gage donné.
C'est un premier pas, le droit à la différenciation, pour reprendre le terme de Jean Castex, Michel.
Oui, mais après, je ne prendrai pas pour argent comptant tout ce qu'a dit le Premier ministre. Et dont, d'ailleurs, je salue le discours de politique générale, parce qu'en fait, je trouve qu'il a plutôt réussi son entrée dans l'arène politique, parce que c'est aujourd'hui que ça s'est joué pour lui, et je trouve qu'il a plutôt réussi l'exercice. Ceci dit quand même un point, c'est qu'il est quand même l'homme des plans de déconfinement qui ont été extrêmement complexes et décriés par beaucoup de corps de notre société, parce que ces plans étaient extrêmement complexes. Donc il faut quand même être prudent. Il a relevé pendant ces mois où il a été aux côtés d'Édouard Philippe que le couple préfet-maire, préfet départementaux et maire fonctionnait très bien, et il a dit cet après-midi qu'il allait développer ce tandem pour justement rapprocher l'État des territoires et notamment des départements. Mais quand même, ces trois derniers mois, on peut pas dire que les plans de déconfinement orchestrés par Jean Castex ont tous été d'une grande réussite. Donc prudence quand même, donnons-lui gage d'une bonne volonté et d'une intention de rapprocher l'État des territoires. Mais encore une fois, je pense que ça va pas être simple à mettre en œuvre.
Le discours de politique générale de l'homme du déconfinement et de l'homme des territoires, on continue à en parler dans un instant. On fait une pause à 20h10, le temps de faire le point sur l'actualité de ce mercredi. C'est le Fil Info avec Thomas Bénèche.
Ceux qui agressent les pompiers se mettent en dehors de la République. Parole du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en déplacement ce soir dans l'Essonne après l'agression de pompiers à Étampes. Plusieurs visés par des tirs lors d'une intervention hier soir sur des incendies de deux roues, l'un d'eux légèrement blessé. À chaque attaque des forces de l'ordre, à chaque agression d'un pompier, le ministère de l'Intérieur portera plainte systématiquement, indique Gérald Darmanin. La confiance au gouvernement votée ce soir à l'Assemblée, 345 voix pour, 177 contre, 43 abstentions. Cela nous oblige a lancé Jean Castex, le Premier ministre, face aux députés cet après-midi pendant une heure pour son discours de politique générale. Plusieurs annonces faites cet après-midi. 40 milliards d'euros consacrés à la transformation de l'industrie pour la rendre moins dépendante de l'extérieur. 20 milliards d'euros dédiés à l'écologie pour la rénovation thermique des bâtiments, le soutien aux technologies vertes de demain. 30 milliards d'euros mobilisés cette année pour le financement du dispositif d'activité partielle. 8 milliards l'an prochain. Pour les étudiants boursiers, les repas dans les restaurants universitaires seront à 1 € dès la rentrée. Pour les familles les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire exceptionnellement revalorisée de 100 € par enfant. Enfin, en matière de retraite, Jean Castex juge la réforme toujours nécessaire, souhaite qu'on la distingue de toute mesure financière. Le dossier évoqué dès vendredi avec les partenaires sociaux ainsi que l'ensemble du plan de relance de l'économie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Céline Asselot.
Il l'a répété précisément 25 fois, le mot territoire au cœur du discours de politique générale de Jean Castex. On commençait à en parler tout à l'heure, au cœur donc de cette première partie des informés. Il a dit même précisément libérer les territoires. Est-ce que ça veut dire que les territoires ils sont pas libérés aujourd'hui? En quoi c'est un problème en cette période de crise sanitaire et de crise économique, Patrice Moyon?
Oui, alors libérer les territoires, les Bretons par exemple demandent souvent un droit à l'expérimentation. Estimant que les problèmes ne sont pas réglés ou les questions ne sont pas posées de la même façon selon les territoires. Libérer aussi les territoires probablement du poids de l'administration. Et c'est là qu'il y a une forme de un peu il y a un, peu un malentendu sur ce qu'on attend des prochaines réformes. C'est est-ce qu'on parle de déconcentration ou est-ce qu'on parle de décentralisation ? Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire déconcentration, c'est-à-dire donner plus de pouvoir à l'administration sur le plan local, ou au contraire décentraliser, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux assemblées locales.
Et selon vous, il est de quel côté, Jean Castex ?
Je pense que la logique macronienne reste quand même très bonapartiste et donc très jacobine.
Et même castexienne, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, c'est quand même avant tout un haut fonctionnaire.
C'est un haut fonctionnaire.
Certes, élu de Prades, mais encore une fois, on l'a vu sur les plans de déconfinement, dans le duo et le couple maire-préfet, qui sait qui aura le plus de marge de manœuvre. Et puis un autre point qui va être terrible pour Jean Castex, c'est les 600 jours. Enfin, c'est même pas les 600 jours, honnêtement, c'est les 400 jours, parce que la campagne des élections présidentielles, bon, va commencer, à mon avis, elle a déjà commencé, plus on va s'en rapprocher et plus Jean Castex va assumer un mot qu'il a mis en avant aussi et qui est très important. Il a dit, on dit toujours l'intendance suivra et elle ne suit plus depuis longtemps. Il a dit, l'intendance c'est très important. Et il a raison, la politique c'est de l'intendance. Et on peut craindre que Jean Castex soit en fait le grand intendant de la République dans les mois qui viennent, pendant que Emmanuel Macron... prépara la campagne présidentielle. Mais en tant que grand intendant de la République, et quand je le dis, c'est pas négatif, au contraire, c'est même très important pour le quotidien de nos concitoyens, mais ce faisant, il va pas pouvoir réformer grand-chose, et notamment pour ce qui est des expérimentations de territoire, comme il l'a dit, il va falloir une loi organique pour permettre qu'il y ait des expérimentations territoriales qui soient faites, ici et là. Mais est-ce que ça va être possible et est-ce que ça va être mis en œuvre d'ici 2022? Honnêtement, ça va être très très difficile.
Vous l'avez entendu aussi vanter cette France du bon sens, qu'il faut davantage écouter, qu'il faut davantage reconsidérer. Est-ce qu'on est là aussi dans une préparation un petit peu de l'élection dans 2 ans? Ou est-ce qu'il s'agit de se mettre en avant comme un homme de dialogue? Là encore, on a beaucoup dit que c'était un homme de dialogue, Jean Castex.
Oui, peut-être comme un homme de dialogue, mais moi, les mots que j'ai retenus, outre le mot territoire, c'est ressouder, réconcilier. Mm-hmm. Et j'ai pas l'impression du tout qu'il y avait cette ambiance dans l'hémicycle. Déjà, dès qu'il prend la parole, il est chahuté, on entend du bruit. Et toute l'opposition, et c'est son rôle, elle est dans son rôle, hein, mais elle n'a pas critiqué le discours de Jean Castex, mais elle a critiqué Emmanuel Macron. Elle a voulu viser Emmanuel Macron à travers lui. Donc en fait, ce qu'il attend est très important et très compliqué parce qu'il a face à lui une opposition qui est, enfin, dans l'opposition permanente face à Emmanuel Macron. Et donc, on ne prend pas assez en valeur, en compte, la valeur qu'il a et sa qualité de Premier ministre. Et moi, j'étais assez choquée de l'ambiance dans laquelle s'est déroulé ce discours, juste pour parler aussi de la forme. Voilà, s'arrêter 2 secondes sur la forme, j'ai trouvé ça choquant, en fait.
En tout cas, ça sera pas si facile de ressouder la France et le monde politique. C'est un petit peu ça aussi.
En même temps, ça fait partie de la tradition républicaine. On l'a vu quand les nouveaux ministres sont venus se présenter. Donc les assemblées, ils ont été un peu secoués, quoi. L'Assemblée nationale ressemble souvent à une cour de récréation, c'est un peu normal. Non, moi j'ai noté quand même, parce qu'effectivement, il y a toujours cette idée qu'on fait des grandes déclarations. Il a fait une annonce qui est un peu concrète quand même, parce que c'est toujours pareil, il y a les déclarations d'amour et puis il y a les preuves. Les preuves, c'est qu'il a dit, alors après, il faudra voir si c'est mis en place, mais il a dit que toute création nouvelle d'emplois se ferait dans les services départementaux, dans les services d'État départementaux, et non pas dans l'administration centrale.
Bon. Il a dit c'est une révolution.
Et il a d'ailleurs employé ce mot, je crois pour le coup, il a employé territoire beaucoup, mais révolution, il ne l'a pas employé très souvent, parce que ce n'est pas vraiment le genre du bonhomme. Mais pour le coup, si ça se fait, si c'est vrai, c'est intéressant. Parce que
est-ce que c'est révolutionnaire, selon vous?
Où se font les emplois? Alors je ne sais pas pourquoi il a parlé que du département et pas des régions, puisqu'il y a aussi des fonctionnaires régionaux, mais c'est vrai qu'il a parlé des fonctionnaires départementaux dans les 300 jours, les 600 jours, pardon, qui lui restent. Il y aura quand même des embauches de fonctionnaires qui se feront là et non pas dans les administrations centrales. Et ça, c'est une vraie preuve.
C'est une preuve d'amour.
C'est Patrice en tout cas, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que quand on écoute des élus locaux, ils disent aujourd'hui qu'ils ne disposent pas des infrastructures techniques nécessaires et qu'avant, ils pouvaient s'appuyer sur les services déconcentrés de l'État et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens nécessaires. Donc, ils sont obligés de faire appel à des sociétés privées, c'est très cher. Et donc, réarmer, comme l'a dit le Premier ministre, les territoires, c'est ça va plutôt dans le bon sens, effectivement.
J'allais rappeler ce terme, justement, réarmer les territoires comme si on allait en guerre, la guerre économique et sanitaire avec les élus locaux, en fait.
Oui, mais après, est-ce que c'est une révolution? Non, je pense que ça n'est pas une révolution. C'est un ajustement technique de l'ordre de l'intendance de la part de l'État qui va effectivement notamment avec un petit peu la réinvention des emplois jeunes, 300 000 parcours d'insertion, 100 000 services civiques pour réduire l'impact de chômage sur les jeunes. Donc toutes ces jeunes vont être embauchés, si j'ai bien compris, dans les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire au niveau départemental. Là où effectivement je trouve qu'il y a une petite révolution, comme l'a dit Arnaud Gonzague, c'est d'avoir tant mis en avant les départements. Parce qu'effectivement, depuis 10, 15, 20 ans, on a beaucoup mis en avant les régions comme étant vraiment des grandes métropoles régionales.
On oublie un peu les départements, c'est
ça ? Voilà, on les a un peu oubliés. Certains même s'interrogeaient dans le millefeuille administratif de notre pays s'il fallait pas quasiment supprimer les départements. Et là, il y a un retour très fort des départements, des bassins d'emploi plus proches, plus petits également. Et ça, c'est, je trouve, non pas une révolution, mais c'est un nouveau regard sur notre pays, parce que peut-être que la France, avec ses 36 000 communes et toutes ces diversités, toutes ces complexités, même les régions sont trop grandes pour pouvoir les appréhender. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort. Mais encore une fois, ce qui manque, la vraie révolution qui manque, c'eût été, mais ça c'est la faute à Emmanuel Macron, c'eût été une grande loi de décentralisation, une nouvelle phase de décentralisation. Et ça, on ne l'a pas eu depuis 3 ans. Et encore une fois, ce n'est pas dans les 2 dernières années du mandat qu'on les aura. Alors, comme le président de la République voit son avenir et celui de la France à 10 ans, peut-être qu'il en fera un de ses thèmes de campagne pour un deuxième quinquennat, si les Français veulent bien lui faire confiance. Mais c'est encore une fois pas dans ses 600 jours que de tels changements vont pouvoir se mettre en œuvre.
Bon, 600 jours en tout cas pour démarrer la relance économique. On va en parler dans un instant après le fil info à 20h20. C'est avec vous, Thomas Bénèche.
20 milliards d'euros, le montant de la baisse des impôts de production pesant sur les entreprises, annonce ce soir de Matignon. Cette somme intégrée au plan de relance détaillé aujourd'hui par le Premier ministre dans son discours de politique générale. À l'issue, la confiance au gouvernement votée à l'Assemblée. Au Palais Bourbon cet après-midi, 1 heure de prise de parole de Jean Castex. La priorité de la nouvelle équipe gouvernementale, la lutte contre le chômage, la préservation des emplois, la situation des jeunes traitée en urgence, le dispositif d'exonération de charges pour favoriser l'embauche des moins de 25 ans sera de 4000 euros. Toutes les entreprises concernées et pour un an au moins. Pour les étudiants boursiers, les repas dans les restaurants universitaires seront à 1 euro dès la rentrée. Quant aux familles les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire sera exceptionnellement revalorisée de 100 euros par enfant. Pour l'industrie, 40 milliards d'euros mobilisés pour la rendre moins dépendante de l'extérieur après les faiblesses mises au jour par la crise du coronavirus. Jean Castex souhaite dans son action à venir s'appuyer sur les territoires, souhaite un droit à les différencier et veut le consacrer dans une loi organique. Il annonce que les créations d'emplois de fonctionnaires en 2021 seront réservées aux services départementaux de l'État. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en déplacement ce soir dans l'Essonne à Étampes à la rencontre des pompiers. L'un d'eux blessé par balle hier soir lors d'une intervention. Le locataire de la place Beauvau annonce que chaque fois que des membres des forces de l'ordre, des pompiers seront agressés, le ministère portera plainte.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Céline Asselot.
Et les informés détaillent comment analyse le discours de politique générale de Jean Castex avec ce point central, évidemment, la relance économique. Emmanuel Macron avait commencé à évoquer hier lors de son interview du 14 juillet. Il y a eu quelques précisions tout à l'heure de la part du Premier ministre. Quelques chiffres, 40 milliards pour l'industrie, 20 milliards d'euros aussi pour l'écologie.
Ce gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la nature et la biodiversité. Faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe. L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous.
Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre là des propos de Jean Castex ? Il dit on sera vert, nous aussi, même si on ne s'appelle pas les verts. C'est un petit peu ça, Marianne Pierzadeh.
Il voit bien que les Verts font des scores très élevés. Ils ont fait des scores très élevés lors des dernières élections, les élections européennes et les élections municipales. Donc c'est aussi un moyen de dire, voilà, l'écologie... parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience pendant cette crise du Covid-19. Et les Français aspirent à une vie un peu plus écologique, à de nouveaux modes de consommation. Et ça s'est traduit dans les urnes lors des municipales. Alors c'est un scrutin très particulier. Mais pour dire, voilà, nous aussi, on va être bons sur ce domaine-là. Parce que on peut remplir toutes les cases, dont l'écologie. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous avez retenu des annonces, Arnaud Gonzague, vous qui suivez particulièrement ces questions?
Ben oui, pas grand-chose de très concret, malheureusement, comme souvent. Enfin, il y a beaucoup de milliards qui sont dits, on va développer les pistes cyclables. Bon, c'est des choses qui vont dans le bon sens, on peut que les soutenir. Il y a une chose en particulier que j'ai trouvé intéressante, effectivement, parce que c'est relativement nouveau, c'est quelque chose que n'employait pas l'exécutif avant, je parle de l'exécutif avant Macron, c'est tout le moratoire, vous savez, sur les centres commerciaux dans les zones périphériques. Ça a le mérite d'être relativement nouveau et d'être très concret. Concrètement, il faut savoir qu'en France, en tous les 7 à 10 ans, il y a l'équivalent d'un département du territoire français, en général des territoires agricoles, donc des champs, qui passent sous le béton. Parce que, effectivement, avec ces zones commerciales démentielles, on est en train de miter le territoire français. On a déjà commencé depuis bien longtemps à tuer les centres-villes aussi. Parce qu'évidemment, toutes ces zones commerciales vident beaucoup, beaucoup de centres-villes de leurs petits commerces. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, pour le coup, c'est quelque chose que Emmanuel Macron a commencé à faire assez rapidement. Il n'a pas attendu Jean Castex. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes, évidemment. Même si c'était un aéroport, c'était pas une zone commerciale, mais ça allait dans le même sens. Puis il y a eu le gel de l'abandon d'Europa City, qui était ce grand centre commercial dans le triangle de Gonesse. Donc, il y a réellement quelque chose d'assez ambitieux là-dessus. Après, il faut préciser une chose quand même, c'est que la tendance, de toute façon, n'est pas à la construction des centres commerciaux dans les zones périphériques en France. Hein. Les centres commerciaux, il y en a déjà peu qui se construisent, c'est plus à la mode.
Donc c'est un peu facile, c'est ça que vous dites.
C'est plus facile, évidemment. Ça n'empêche que c'est quand même un vrai point, mais ça se fait plutôt dans les centres-villes. Et puis surtout, la grande question, c'est est-ce que ça concernera les entrepôts de e-commerce? Notamment les entrepôts d'Amazon, parce que c'est là que se font beaucoup les constructions. Si on considère que ce ne sont pas des zones commerciales concernées par ce plan, alors évidemment, ça affaiblira un peu ce plan.
Alors, il a parlé du moratoire, effectivement. Il a parlé de rénovation thermique des bâtiments aussi, de la production d'une alimentation locale et durable, du soutien aux technologies vertes. Il y a quand même des choses. Vous trouvez aussi, Patrice Moyon, que ça a manqué de concret ?
Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'associer en fait l'industrie et écologie. Pourquoi ? Parce que il y a un vrai défi industriel pour la France. C'est un peu plus de 12% du PIB en France et 20% en Allemagne. On a perdu 500 000 emplois dans l'industrie au cours des 10 dernières années. Et on voit bien que les derniers bastions industriels, c'est-à-dire de la France, l'aéronautique, l'automobile, la construction navale, doivent faire leur écologique. Donc c'est la possibilité à la fois de créer des emplois et de réindustrialiser la France. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Il a d'ailleurs dit croissance écologique et non pas décroissance verte.
C'est ce que j'allais dire. Il a fait le pari de la croissance écologique contre la décroissance verte, pensant que, selon lui, pour les écologistes notamment, c'est plus la décroissance qu'il prône, alors que lui est le chef de l'État. Hier, Emmanuel Macron disait également, on va investir fortement dans les énergies renouvelables, dans l'hydrogène notamment. Le président de la République l'a cité deux fois. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Dans son discours de politique générale, Jean Castex a annoncé qu'il y aurait des contrats de développement écologique dans tous les territoires de France et que d'ici fin 2021, ils seraient tous signés. Donc il y en aurait des dizaines, voire des centaines.
Ce sont des choses qui vont rester très théoriques.
Voilà. Et en fait, c'est toujours la part entre des effets d'annonce qui sont nécessaires. Le rôle d'un discours de politique générale, c'est de poser des principes et de faire quelques grandes annonces. Mais encore une fois, leur mise en œuvre va nécessairement mettre du temps, surtout que la conversion de notre société, qui est quand même très largement entamée, vous citiez les industries, mais les grandes industries travaillent déjà depuis longtemps à s'adapter aux enjeux environnementaux et à essayer d'être plus propres et moins polluantes, et n'ont pas attendu Jean Castex, ni Emmanuel Macron, ni Yannick Jadot pour tenter de s'adapter aux nouveaux enjeux du réchauffement climatique. Mais toujours, je pense que le principal ennemi de Jean Castex, ça va être le temps. Le temps est compté, et que malheureusement, le discours qu'il a fait, c'était plus un discours d'un Premier ministre de début de quinquennat que de fin de quinquennat.
Mais on peut pas lui reprocher d'avoir trop d'ambition. Mais on reproche parfois à Emmanuel Macron de manquer d'ambition sur les thèmes écologiques. Là, on peut pas lui dire vous voulez trop en faire.
Bien entendu, mais il n'empêche que ça sera vraiment l'impasse dans laquelle il va se retrouver rapidement, c'est le temps, parce qu'encore une fois, c'est plus un discours. Moi, j'ai plus entendu un discours d'annonce d'un début de quinquennat. Mais encore une fois, le président de la République l'a dit hier dans son interview devant les Français, c'est que dans son esprit. Il est là pour 2 ans, mais c'est à 10 ans qu'il raisonne, lui. Et c'est vrai que les annonces qu'a faites Jean Castex, encore une fois, c'est pas en 600 jours qu'elles s'appliqueront, c'est plus dans une perspective plus longue.
L'écologie, mais pas seulement l'écologie, au cœur de ce plan de relance économique dont Jean Castex a donné quelques détails tout à l'heure au cours de ce discours de politique générale qu'on évoque avec les informés. Mariam Pierzadeh, Arnaud Gonzague, Patrice Moyon et Michel Taube, restez avec nous. Le débat des informés reprend dans une poignée de minutes.
Politique,
enquête,
sport,
invité,
culture,
interview,
économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair.
France Info Météo, avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
Les prévisions météo avec Elodie Calac.
Un temps bien nuageux demain sur la majorité du pays. Les nuages auront largement l'avantage. On pourrait espérer quelques éclaircies appréciables de temps en temps. Un peu plus nombreuses l'après-midi sur le nord-ouest. En revanche, ça restera très encombré près des frontières du nord et de l'est avec quelques averses. Pour trouver le soleil, il faudra aller en direction du sud-est, mais ce sera encore au prix du vent, jusqu'à 60 km à l'heure pour la Tramontane, le Mistral, le vent d'ouest également sur le littoral du Var et sur la Corse. Sur le sud des Alpes et la montagne, Corse, vous ne serez pas à l'abri d'une petite averse sous les nuages les plus joufflus. Il fera 12 à 20 degrés le matin et l'après-midi, 20 degrés à Honfleur, 21 à Lille, Brest, Strasbourg, 24 à Paris, 25 degrés à Angers, Lyon et Toulouse, 28 à Bastia et 31 à Montpellier.
Avant de retrouver les informés, on fait un nouveau point sur l'actualité puisqu'il est 20h30. C'est avec vous, Emmanuel Langlois.
Avec 345 voix pour 177 contre et 43 abstentions, Jean Castex obtient sans surprise une large confiance de l'Assemblée sur sa première déclaration de politique générale cet après-midi, mais une adhésion moindre que pour les gouvernements d'Édouard Philippe. Le Premier ministre avait donc auparavant mis les territoires au cœur de ses 600 jours d'action à Matignon. Devant les députés, pendant une heure chrono, il a détaillé sa feuille de route destinée à relever une France en pleine crise de confiance. Ce sont ses mots, confronté à des défis économiques et sociaux majeurs dont il veut réarmer les territoires. Jean Castex qui annonce également un plan d'investissement de 6 milliards d'euros dans le système de santé français. 6 milliards qui s'ajouteront aux 8 milliards promis lors du Ségur de la santé pour la revalorisation des personnels hospitaliers. Mon travail, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Déclaration de Gérald Darmanin en visite ce soir à Étampes dans l'Essonne où un soldat du feu a été blessé par balle lors d'une intervention pour une voiture incendiée. C'était hier soir dans un quartier sensible. Le ministre de l'Intérieur prévient que désormais, chaque fois que les forces de l'ordre seront attaquées, chaque fois qu'un policier, un pompier sera agressé, le ministère portera systématiquement plainte. Fin de citation. Édouard Philippe, élu à la tête de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole, qui réunit une cinquantaine de communes de Seine-Maritime, l'ancien Premier ministre a recueilli 102 voix sur 130. Et puis après 4 mois de fermeture, Disney Land Paris a rouvert ses portes au public ce mercredi avec un protocole sanitaire strict. Réservation préalable, port du masque et distanciation physique d'un mètre sont désormais exigés au pays de Mickey. 20h32.
20h, 21h, France Info, les informés, Céline Asselot.
Une heure de grand oral devant les députés, des chiffres précisés, des mesures présentées et puis des zones d'ombre encore après ce discours de politique générale de Jean Castex que l'on continue à détailler avec les informés ce soir. Mariam Pierzadeh, journaliste, chroniqueuse à France 24, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Patrice Moyon, journaliste éditorialiste au sein du quotidien Ouest France et Arnaud Gonzague, responsable du service Société de l'Obs. Le débat se poursuit tout de suite sur France Info. Alors on l'a dit tout à l'heure, il dit croire, Jean Castex, à la croissance écologique mais pas à la décroissance verte. Il mise donc sur le vert pour son plan de relance qu'on détaille ensemble. Mais il mise aussi sur les jeunes. La première urgence, ce sera les jeunes. Écoutez.
Premier impératif, favoriser l'embauche. L'État y aidera avec un dispositif exceptionnel de réduction du coût du travail à hauteur de 4 000 euros par an pour les jeunes de moins de 25 ans jusqu'à 1,6 SMIC dans toutes les entreprises et pour une durée d'au moins un an. Deuxième impératif, lutter contre le décrochage durable des jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi. 300 000 parcours et contrats d'insertion permettront d'aller toucher les jeunes les plus en difficulté et 100 000 places de plus en service civique.
Alors Emmanuel Macron en avait déjà parlé hier, Jean Castex le redit, enfonce le clou en quelque sorte. Est-ce qu'ils ont raison tous les deux de miser sur les jeunes, Patrice Moyon?
Alors ils ont raison de miser sur les jeunes, oui, et parce que la France en plus a déjà du retard dans ce domaine-là. Il y avait une enquête de la DARES, donc le service statistique du ministère du Travail, en 2019, qui disait qu'une génération 18-25 ans, il y avait près de 1 million de jeunes qui étaient sans formation, sans diplôme ou sans travail. Donc on voit bien le risque. Avec l'augmentation du chômage, c'est que là, le fossé se creuse encore plus avec des jeunes qui n'accéderaient pas au marché du travail et qui ensuite seraient définitivement éloignés. Donc là, le gouvernement doit effectivement miser sur les jeunes.
Mais quand il dit 700 000 jeunes vont entrer sur le marché du travail à la rentrée, on ne laissera personne sans solution, ça paraît d'autant plus difficile que vous rappelez les chiffres de ces dernières années.
Le défi est redoutable et on voit bien qu'un certain nombre d'entreprises hésitent à prendre, par exemple, les chiffres de l'apprentissage repartaient à la hausse. Certaines entreprises hésitent aussi sur des formations d'alternance. Donc là, effectivement, ça va être difficile.
Marianne Pierzadeh, est-ce que c'est la bonne porte d'entrée?
Les jeunes?
Oui.
C'est l'une des portes d'entrée. Les jeunes ont eu une année, comme tout le monde, on a un début d'un premier semestre qui a été très compliqué. Beaucoup de personnes, dizaines de milliers de jeunes vont se retrouver effectivement sur le carreau. Moi, ça me semble un petit peu utopique de trouver une solution pour chacun de ces 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Au-delà de ça, je pense qu'il faut changer peut-être certaines choses au sein de l'université, faire des filières qui soient un peu plus professionnalisantes. Des fois, il y a des cours qui sont dispensés, des filières qui n'amènent pas à trouver un emploi à la sortie. Et je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et faire aussi une très grande réforme. Mais comme on a dit un peu plus tôt, le plus grand ennemi de Jean Castex va être le temps. Donc il faut rassurer ces jeunes, mais il ne faut pas non plus leur promettre la lune. Et je trouve que c'est une promesse qui est un peu trop ambitieuse et déconnectée de la réalité pour l'instant.
En tout cas, vous êtes d'accord sur le fait que le temps va être court. Vous êtes d'accord là-dessus. Est-ce que c'est utopique?
C'est compliqué, effectivement. Si on prend une situation objective qui est en France, effectivement, la situation professionnelle des jeunes n'est pas facile. Vous ajoutez là-dessus une énorme récession d'une ampleur qu'on n'a pas connue jusqu'ici. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué d'imaginer qu'on va arriver à faire des choses qu'on a déjà du mal à faire dans une situation économique normale. Moi, j'ai noté qu'il y a eu effectivement un grand... Il a beaucoup appuyé sur l'idée qu'il faut développer la formation professionnelle, etc. Malheureusement, c'est un discours qu'on entend depuis 25 ans, 30 ans.
Et qu'on ne fait pas.
Qu'on a fait un petit peu depuis. Il y a quand même eu des réformes de ce qu'on appelle le CPF, le contrat personnel de formation, qui sont des trucs un peu techniques, mais qui, dans les faits, commencent à changer le rapport que les salariés moyens ont à leur formation professionnelle. Donc oui, il y a la situation de l'emploi, de la formation professionnelle en France était absolument calamiteuse ces 20 dernières années. Elle est un petit peu moins calamiteuse, mais vous imaginez bien que c'est des choses qui prennent un temps fou avant de se marquer sur le terrain. Et puis le décrochage de l'emploi, souvent, ce qui n'a pas été dit, malheureusement, j'ai regretté par Jean Castex, c'est que le décrochage de l'emploi chez les jeunes, il se fait déjà dès l'école. C'est déjà un décrochage scolaire, un décrochage en termes de diplôme, un décrochage. Et ça, il n'a pas eu un mot là-dessus.
On vient de loin, c'est ça,
en fait, et puis,
Michel Taubin.
Alors, il y a les mesures qui concernent les services publics. Lorsqu'il annonce 300 000 parcours d'insertion, 100 000 services civiques, ça rentre dans la lutte, évidemment, contre le décrochage des jeunes qui sont en plus grande difficulté. Ça relève de la décision de l'État ou de la décision de l'État ou des collectivités locales soutenues financièrement par l'État. Mais pour ce qui est du secteur privé qui embauche quand même, qui est censé embaucher, je pense que l'État pourra faire toutes les mesures incitatives qu'il veut. Tout va dépendre de la reprise de la croissance. Et là, c'est une grande inconnue. Et d'ailleurs, de façon générale, je trouve que le plan de relance qui a été annoncé, 100 milliards d'euros. Au regard des 450 milliards d'euros qui ont déjà été mobilisés sur le très court terme depuis le mois de mars, d'abord, je pense que c'est pas si énorme que cela. En plus, c'est très réparti dans plein de secteurs différents. Donc, est-ce que cela va avoir un impact de levier très fort pour relancer l'économie? Je m'interroge. Et après, concernant l'embauche des jeunes, encore une fois, et l'ensemble de l'économie de ce plan de relance, de ce plan dont le Premier ministre a parlé d'un pacte productif, il va dépendre de la croissance. Et la croissance, elle va elle-même dépendre beaucoup de savoir si on va faire face à une nouvelle phase de confinement due à une reprise de la pandémie du coronavirus ou si elle ne va pas avoir lieu, espérons-le, et du coup l'économie pourrait repartir de plus belle comme on a pu l'observer dans certains secteurs d'activité.
Sur ce chiffre, effectivement, que vous rappeliez, 100 milliards d'euros, qui est un chiffre à la fois énorme et vous le dites pas si important, est-ce qu'on a des précisions? Est-ce qu'on a suffisamment de précisions, justement, d'où vient cet argent et comment il va être redistribué entre les différentes filières qui ont besoin de soutien.
Il y a beaucoup de choses qui restent floues. Alors, la France, comme d'autres pays, attend beaucoup aussi du plan de relance européen. Donc, une réunion vendredi qui s'annonce difficile, puisqu'il n'y a pas encore d'accord. Donc, une partie des fonds va venir aussi de ce plan de relance européen, sachant que pour les jeunes, l'Europe a déjà prévu 22 milliards d'euros. Tirant les leçons aussi de la crise de 2008, quand on se souvient que en 2008, 5 ans après, il y avait encore 24% des jeunes européens dans la tranche 18-25 ans qui étaient au chômage. Donc effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une génération sacrifiée. Alors pour les autres chiffres, effectivement, tout va passer par l'emprunt. Enfin, à la fois le plan de relance européen et puis la France va à nouveau s'endetter.
Mariam Perzadeh, la France va toucher très peu de ce plan européen. Ce plan européen qui est de 500 milliards d'euros, la France espère grand maximum toucher 35 milliards d'euros sur ces 500 milliards.
Donc c'est ça veut très dire peu. Qu'il y a beaucoup d'incertitudes.
En tout cas, une chose est sûre, il n'y aura pas de pression fiscale supplémentaire sur le français, sur le contribuable français. Donc il faut trouver. Il va forcément y avoir des nouvelles taxes. Ursula von der Leyen, qui a annoncé ce grand plan européen de 500 milliards, elle l'a dit. Il va y avoir de nouvelles taxes, notamment sur le plastique, pour pouvoir financer ce grand plan européen. Il n'y a pas d'autre solution.
20h40, on s'interrompt un instant, le temps de faire le point sur l'actualité de ce mercredi soir. C'est le Fil Info à 20h40 et c'est avec Emmanuel Langlois.
Après son discours de politique générale, Jean Castex obtient une large confiance de l'Assemblée. Plus de 300 députés ont adopté sa proposition. Le Premier ministre qui a donc esquissé pendant une heure son plan pour ressouder la France, dit-il. Le chef du gouvernement a érigé la lutte contre le chômage en priorité absolue de la fin du quinquennat. Il annonce aussi plus de 20 milliards d'euros en faveur de l'écologie, en particulier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports et des industries françaises. Le chef de l'État, qui annonce aussi que les nouveaux emplois publics seront affectés en priorité aux départements et non dans les administrations centrales, dit-il. Parmi les réactions, Force ouvrière, pour qui le Premier ministre n'a pas fait beaucoup plus d'annonces que le Président de la République hier. Gilles Legendre, le chef de file des députés En Marche, met en garde Jean Castex. Le temps calme ne sera pas au rendez-vous du mandat que vous a confié le chef de l'État, dit-il. Et puis on apprend ce soir de la bouche de Bruno Le Maire, cette fois sur France 2, que les impôts de production payés donc par les entreprises installées en France, ils baisseront de 20 milliards d'euros au cours des 2 prochaines années. L'épidémie de Covid-19, elle a fait 26 nouveaux décès depuis avant-hier dans les hôpitaux, 65 en une semaine dans les EHPAD français. La décrue du nombre de malades en réanimation se poursuit. Santé publique France prévient de son côté que le département de la Mayenne a dépassé la semaine dernière le seuil d'alerte avec plus de 50 cas de Covid détectés en 7 jours pour 100 000 habitants. Et puis Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, lui précise que l'obligation du port du masque évoquée hier par le chef de l'État dans les lieux publics fermés pourrait se faire avant le 1er août car l'exécutif, dit-il, veut aller le plus rapidement possible sur ce sujet.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Céline Aslo.
Avec ce chiffre donc qu'on évoquait tout à l'heure, 100 milliards d'euros, c'est donc l'argent sur la table, en tout cas c'est ce que dit l'exécutif, pour ce plan de relance qui sera lancé à la rentrée avec des incertitudes. Vous en parliez sur la provenance de cet argent. Est-ce que donner ce chiffre, est-ce que c'est une manière aussi de rétablir, de restaurer cette confiance qui a été si souvent évoquée aussi, c'est un terme qu'on n'a pas encore rappelé, si souvent évoqué tout à l'heure par Jean Castex, il faut restaurer la confiance.
Absolument, et encore une fois... l'État stratège que le président de la République appelle de ses voeux, l'État qui est là quand il y a une crise, c'est maintenant qu'il doit être très 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 présent. Donc encore une fois, la relance, elle va être déterminante. L'État était présent au plus fort de la crise sanitaire, avec notamment le relais qu'a assuré l'État au niveau des salaires et du chômage partiel pour beaucoup de nos concitoyens. Mais encore une fois, lorsqu'il annonce que sur la prolongation du dispositif de temps partiel qu'il n'y aura que 9 milliards pour 2021, encore une fois, c'est à mon avis faire des plans sur la comète, parce qu'encore une fois, cela va dépendre de la suite de la pandémie du coronavirus. Si malheureusement celle-ci continue ou s'installe dans la durée, parce que plus que la deuxième vague épidémique, moi ce que je crains, c'est que tout simplement on s'installe dans une continuité d'une présence de la crise. Certains secteurs d'activité vont être tellement impactés dans la durée qu'on risque d'avoir beaucoup de chômeurs à temps partiel à prendre en charge par l'État. Et là, ce ne sera pas 9 milliards en 2021, ce sera beaucoup plus. Donc, effectivement, je pense qu'il faudrait vraiment un choc de confiance très très fort avec un plan de relance massif. 100 milliards, je ne sais pas si c'est suffisant. En tous les cas, il faut vraiment... Là, j'ai envie de dire, la rentrée de Jean Castex, c'était son discours aujourd'hui, d'un point de vue politique, tel que l'exige la Constitution. Mais la vraie rentrée, ça va être l'annonce du plan de relance dans tous ses détails, fin août au début septembre. Il y a urgence. Beaucoup d'ailleurs d'observateurs et d'opposants politiques demandaient un plan de relance plus rapide. Bon, il faut laisser le temps au Premier ministre d'arriver et de prendre la mesure des enjeux, mais quand même, il y a grosse
pour
urgence.
Pour en revenir à ce chiffre 100 milliards que vous évoquiez, c'est évidemment pas un don, hein, l'idée c'est que ce soit un investissement sur la transition écologique, sur la croissance écologique par exemple, qu'évoquait Jean Castex, Arnaud Gonzague. Comment on imagine le retour sur investissement?
Ah bah, le retour sur investissement, sur le papier, il est très simple, c'est que vous créez les emplois de demain, les technologies de demain, et vous prenez acte du fait que les technologies carbonées sont obsolètes, donc de fait, vous enlevez l'argent là où il devrait plus être, déjà depuis plusieurs décennies, et vous le mettez là où il est censé aller demain. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, au niveau européen, on ne reconnaît pas les investissements dans, je ne sais pas, par exemple les pistes cyclables, la voiture photovoltaïque dont a parlé le Premier ministre, quelque chose qui est très 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 balbutiant, ou enfin, on va dire voilà, toutes ces énergies, les énergies renouvelables, etc. Tout ça aujourd'hui, les investissements qui sont faits par les États européens dans ces technologies qui non seulement incarnent l'avenir mais incarnent les objectifs revendiqués par les pays européens, sont considérés comme de l'endettement. Et ça, c'est un vrai problème qu'il faut absolument changer. Mais ça, c'est pas Jean Castex qui le fera, c'est au niveau européen. C'est qu'il faut impérativement que tous les investissements qui sont faits sérieusement dans ces technologies vertes soient considérés non pas comme des endettements pour nos enfants, mais comme des vrais investissements. Donc il faudrait les sortir des obligations.
Mais est-ce que ça veut dire... C'est un peu ce qu'il a annoncé d'ailleurs, si je peux me permettre. C'est un peu ce qu'il a annoncé parce qu'il a dit dans son discours que la part non conjoncturelle de la dette issue de la crise du Covid sera cantonnée.
Eh ben oui,
et en fait,
ça veut dire qu'il va limiter
les investissements. Pris, cantonnée, ça veut dire quoi? C'est qu'elle va être certainement isolée, comme on avait fait lorsqu'il y avait eu un très gros déficit de la sécurité sociale il y a plus de 20 ans en créant la CRDS qui devait financer dans la durée une dette qui avait été contractée à un moment donné. Je pense que sur le Covid, la dette Covid, on commence à parler de la dette Covid, elle va s'inscrire en fait sur une très longue durée.
Elle va être,
de façon peut-être un peu indolore, même s'il faut toujours payer, inscrite dans une très très longue durée. Il a aussi été dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, mais justement, pas d'augmentation d'impôts à court terme, mais assez rapidement, d'ici 1, 2 ou 3 ans, nous allons tous commencer à rembourser cette dette en l'étalant sur 10, 20, 30, 40 ans.
Ça veut dire
la CRDS existe toujours, alors qu'à l'époque, on nous avait dit qu'elle ne serait en place que quelques années.
Ça veut dire qu'on va mettre du temps à voir les effets de ce plan de relance. Là encore, la question du temps est au cœur de la problématique, Marianne Pierre.
Nous, on ne le sentira peut-être pas, mais c'est plutôt nos enfants qui vont payer cette dette. Effectivement, d'ailleurs, on parle de la dette Covid, c'est-à-dire qu'elle est complètement désarticulée de la dette française qui déjà était très importante. C'était l'une des plus importantes en Europe. Donc ce plan de relance, ça va être effectivement très compliqué de le voir à court terme, à moyen terme. De toute façon, ça va être un plan qui va... cette crise du Covid a accéléré des faillites qui devaient de toute façon avoir lieu. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire le disait, il faut arrêter de maintenir sous respiration artificielle des entreprises qui ne sont plus viables. Donc je pense aussi qu'il va y avoir aussi, entre guillemets, un tri pour ces entreprises, celles qui vont pouvoir rapporter de l'argent et celles qui vont plutôt en coûter.
Mais là, on en revient à la question des territoires. C'est-à-dire que dans certains départements, certaines régions qui dépendent beaucoup d'un secteur d'activité ou d'une entreprise, on ne peut pas dire, bon, ben voilà, vous n'êtes pas l'avenir, on va fermer, tant pis pour vous.
C'est pour ça que l'accompagnement de l'État et l'accompagnement de l'Europe vont être très importants. On voit dans certains, par exemple, dans certains territoires où il y avait l'industrie automobile et des sous-traitants de l'industrie automobile ou des sous-traitants de l'aéronautique. Donc là, il y a une véritable transformation à faire sur le modèle. Tous ceux qui travaillaient pour le diesel, par exemple. Donc, il faut des investissements. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'endettement lié à ces investissements. Et puis, en plus, il y a deux niveaux. Par exemple, quand on prend les investissements pour tout ce qui est isolation thermique, on sait que ça va créer beaucoup d'emplois. Donc, ça va permettre de soutenir l'économie pendant cette période de transition.
Mais à court terme, à moyen terme, à long terme, là encore, on en revient à la question du temps. Est-ce qu'on va voir ça dans les 300, 400, 600 jours du gouvernement Castex ?
C'est sûr que non.
C'est sûr que non.
C'est sûr que non.
Pour l'isolation des bâtiments, on peut espérer quand même qu'il y ait des choses bougent de manière sérieuse.
Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Enfin, je veux dire, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai l'impression que j'entends parler de la rénovation. Il a dit d'ailleurs la rénovation technique des bâtiments.
Oui. Il s'est trompé. C'est
dire à quel point c'est un dossier simple.
Et pour une raison très simple, c'est que si vous voulez rénover votre logement, quand bien même l'État mettrait 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, si ça coûte 20 000, 25 000, 30 000 euros et que à cause de la crise économique, à cause de la crise du coronavirus, vous ne pouvez pas le faire, eh ben, quelles que soient les aides publiques, vous ne le ferez pas. Et donc c'est vrai, sans parler de tous les problèmes de syndic d'immeubles, de complexité réglementaire. J'ai pas tellement entendu le Premier ministre parler de simplification administrative. Mais si on prend ce sujet-là, par exemple, et justement, les plans de déconfinement orchestré par Jean Castex sous l'autorité d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron ont souvent été, excusez-moi, des usines à gaz, très critiquées par de nombreux corps de métier. Et donc là aussi, le discours sur la pleine simplification administrative a été très absent, je trouve, du discours. Ça a été vaguement évoqué, alors que ça devrait être une des grandes priorités de notre pays, c'est de simplifier les normes administratives qui sont un boulet d'étanglement pour nos concitoyens. Et là-dessus, il faudrait mettre le paquet.
Allez, on s'interrompt une poignée de secondes, le temps de faire le point sur l'actualité à 20h50. Emmanuel Langlois pour le Fil Info.
Gérald Darmanin au chevet du sapeur-pompier blessé hier en opération à Étampes dans l'Essonne. Le ministre de l'Intérieur est arrivé en début de soirée. La profession dénonce une première intolérable. La victime a été touchée à un mollet alors qu'elle intervenait pour éteindre un feu de véhicule dans un quartier défavorisé d'Étampes. Indépendance, écologie, solidarité et compétence, le plan de relance à 100 milliards d'euros détaillé par Jean Castex, le Premier ministre. Il comportera donc 4 grands volets pour accélérer la reprise et la transformation de l'économie française, sans oublier le soutien aux plus modestes. Ainsi, à la rentrée, les repas dans les restaurants universitaires coûteront 1 euro pour les étudiants boursiers. À cela s'ajoute une hausse de 100 euros de façon exceptionnelle, a dit le chef de l'exécutif, de l'allocation de rentrée scolaire en septembre. Après la confiance largement accordée au gouvernement, Bruno Le Maire lui annonce ce soir sur France 2 que le futur plan de relance prévoira une baisse de 20 milliards d'euros des impôts de production qui pèsent sur les entreprises. Produire en France coûtera moins cher, résume le ministre, pour inciter les entreprises à relocaliser l'industrie. Les gendarmes de haute montagne de Chamonix, eux, appellent à la vigilance après la mort de 17 personnes dans les massifs depuis la fin du confinement. Ces dernières 24 heures, ce sont 4 personnes qui ont trouvé la mort dans le Mont Blanc et en vallée de Chamonix. Elle avait été touchée par un spectaculaire incendie, c'était le 26 septembre dernier. L'usine chimique Lubrizol de Rouen, autorisée à augmenter sensiblement son activité. D'après l'arrêté préfectoral, l'usine chimique pourra tourner à 70 à 80% de ses capacités contre 30% auparavant.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés Céline Asselot.
Et les informés continuent à analyser ce discours de politique générale où Jean Castex a parlé territoire, relance, écologie, avant une dernière partie très axée sur les sujets sécuritaires, évoquant les minorités ultra-violentes. Le Premier ministre a dit aussi vouloir lutter contre l'islamisme radical. Il faut changer la loi.
Contre les séparatismes sera présenté en Conseil des ministres à la rentrée pour éviter que certains groupes ne se referment autour d'appartenances ethniques ou religieuses. À nos policiers et gendarmes, à toutes les forces de sécurité et à tous les acteurs de la prévention, je souhaite ici exprimer au nom de la nation mon profond respect et ma gratitude.
Alors, un projet de loi contre les séparatismes, qu'est-ce que vous avez compris? La formulation, elle paraît quand même assez vague, Arnaud Gonzague.
Ça me permet de parler, voilà. Non.
Allez-y, permettez-vous.
Je connais pas moins bien le sujet que l'environnement, mais non, ce qui est... C'est pas, il n'a pas inventé le mot. C'est un mot qui avait été très porté par Emmanuel Macron en février. On l'a oublié parce que le Covid est passé entre temps. Mais il était allé à côté de Mulhouse et il avait eu des mots assez semblables à ceux du Premier ministre. Je pense qu'évidemment, on sait que ce sont des thématiques qui sont importantes pour avoir un électorat plutôt à droite. On parle beaucoup des petites incivilités, on parle des tags, on parle des choses comme ça. On sent que c'est l'électorat un peu de droite. Moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'il ne parle pas du séparatisme des gens les plus fortunés, quoi. Voilà, parce qu'il y a aussi une forme de séparatisme à ce niveau-là, et qu'il y a eu récemment des chiffres de l'OCDE qui ont été donnés sur l'évasion fiscale dans les pays de l'OCDE. Je vous assure qu'on pourrait financer bien des plans de relance avec l'évasion fiscale dans l'OCDE.
Mais la lutte contre l'évasion fiscale a beaucoup progressé en France et a fait rentrer beaucoup d'argent. Non, il y a un vrai problème en France, et moi je trouve que Jean Castex a surpris un peu son monde. Dès sa première intervention télévisée sur TF1, il a affirmé haut et fort cette valeur cardinale qui est la laïcité. Et c'est vrai que je trouve que c'était nécessaire de le faire, parce que depuis 3 ans, certes, lorsqu'il y a eu des attentats terroristes, notamment, le chef de l'État avait également parlé de séparatisme dans la cour de la préfecture de police de Paris, lorsqu'il y avait eu trois ou quatre fonctionnaires de police qui avaient été assassinés. Mais je trouve que Jean Castex a été très très ferme là-dessus, il l'a redit ce soir, et c'est vrai que on l'attend sur ce projet de loi, c'est une surprise.
Pour moi, c'est quasiment la grande annonce de son
discours. C'était pas du tout attendu qu'à la rentrée, il y aurait une loi sur la lutte contre les séparatismes et, comme il l'avait dit quelques secondes avant, très concrètement contre l'islamisme radical. Donc c'est très important. Il y a eu beaucoup d'actions menées depuis les années 2010. Il y a un comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation près du Premier ministre qui a beaucoup travaillé. Donc espérons que le paquet va être mis là-dessus, parce qu'encore une fois, malheureusement, c'est aussi une priorité, et pas que pour l'électorat de droite, excusez-moi, c'est pour l'ensemble des Français.
Qu'en pensez-vous, Mariam Pirzadeh?
Jean Castex,
vois froncer les sourcils un peu.
Oui, parce que je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur le séparatisme. Enfin voilà, c'est des questions qui inquiètent beaucoup de Français, mais Jean Castex est un homme de droite, et c'est ce que beaucoup lui reprochent aussi, la France insoumise en première ligne, elle l'a encore dit tout à l'heure. Non, il y a une vraie... Il y a eu une défiance sur la possibilité de l'État à nous protéger, notamment depuis l'épisode de Dijon, où cette ville, elle a été laissée, a été un champ de bataille entre deux communautés différentes. Et ce qui a visiblement coûté la place de Castaner à
Dijon, où s'est rendu Jean Castex.
Voilà, où s'est rendu, c'est l'un de ses premiers déplacements, donc qui a coûté la place de l'ancien ministre de l'Intérieur sortant. Et d'ailleurs, en prenant Gérald Darmanin, Jean Castex choisit aussi la force et de montrer que l'État revient dans ses zones. Jean Castex, de toute façon, depuis le début, ça fait quelques jours qu'il est Premier ministre, depuis le début, il met l'accent sur la sécurité et il va continuer à le faire. Et j'ai trouvé d'ailleurs, dans cette partie, j'ai trouvé beaucoup plus affirmatif, beaucoup plus dans sa posture, beaucoup plus affirmé que pour les précédents sujets. Donc on voit bien que c'est son sujet et qu'il veut le prendre à bras le corps et il veut l'incarner.
Comment vous l'avez ressenti, Patrice Moyon? Est-ce que c'est une annonce qui vous a marqué d'abord?
Moi, je trouve qu'un projet de loi sur ce sujet traduit aussi l'impuissance du politique sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a, Jérôme Fourquet l'a montré, hein, il y a une archipélisation de la France. Il y a la question de l'islamisme politique, de l'islam politique qui est posée depuis longtemps. C'est un sujet difficile. Hein. Il y a eu plusieurs rapports. Il y a eu un rapport, sénatorial récent qui dit qu'il faut agir. Il faut agir vite. Que toutes les régions sont concernées, sauf la Bretagne, plus à l'ouest. Donc il y a cette question de la fragmentation de la société française, des quartiers qui sont minés par le chômage et d'un certain nombre de mouvements, salafistes notamment, radicaux, qui s'implantent dans les associations sportives, qui s'implantent dans des associations de soutien scolaire et qui finalement prennent le relais d'acteurs qui existaient autrefois, qui faisaient de l'éducation populaire, par exemple.
D'un mot, ça sera le bout de la fin, je crois, Arnaud Gonzague. Vous êtes d'accord avec ça, la lutte contre l'impuissance?
Non, je voulais pas avoir l'air de dire que ça n'avait pas d'importance, hein, que ce soit bien clair.
Non, vous avez dit que c'était plus un combat de droite, alors qu'à mon avis...
Mais
sur les bancs, c'est très important, parce que sur les bancs de l'Assemblée nationale aujourd'hui, sur le passage sur la laïcité, lorsque le Premier ministre...
Je n'ai pas
dit
que c'était un combat de droite,
j'observe...
Ce sont des mots plutôt pour capter un électorat de la
droite. Non, parce que j'observe que sur les bancs de l'Assemblée nationale, tous les rangs de l'Assemblée nationale l'ont applaudi sur ce passage-là, sauf la France, les Insoumis.
Allez, je vous laisse
et
terminer,
les socialistes, à ce que je sache, ne sont pas de droite.
Non.
Et tous les macroniens ne sont pas de droite non plus.
Non, j'ai pas dit du tout que c'était un combat de droite. J'ai dit qu'on sentait qu'il y avait une élection présidentielle dans 2 ans et que ce sont des thématiques qui vont être plutôt incarnées par la droite. Voilà. Après, l'insécurité et les incivilités, c'est des problèmes qui touchent effectivement tout le monde.
On aurait pu continuer le débat sur le sujet. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette édition des Informés. Marianne Pierzadeh, journaliste chroniqueuse à France 24. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion internationale, Patrice Moyon, journaliste, éditorialiste à Ouest France. Et merci à vous également, Arnaud Gonzague, responsable du service société de l'Obs. Restez avec nous sur France Info.